Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle La Voix de la Plume. Vous êtes avec Aurore et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Avec nous, une auteure de fantasy. Bonsoir Jennifer Tellier.
Bonsoir Aurore.
Dans le studio également, nous avons la chance de recevoir Elisabeth Vandendriesch des Compagnons de Jeanne. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Aurore.
Eh bien super, je suis contente de vous avoir avec moi. On va pouvoir explorer l'univers de la fantasy médiévale et du médiéval tout court ce soir. Et comme d'habitude, honneur à notre auteur ce soir. Donc Elisabeth, sens-toi libre d'intervenir si tu as envie de poser des questions à Jennifer un moment dans la soirée. Y a pas de souci, hein, c'est ouvert. On parle entre nous. Je commence toujours par les auteurs parce que c'est mes petits chouchous, mais...
Oui, oui.
Jennifer, alors tu écris surtout de la fantasy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes romans ? Est-ce qu'il y a... On sait qu'il y en a un en particulier qu'on mettra en avant ce soir, mais je te laisse nous présenter en général ton activité d'auteur.
Alors, effectivement, que de la fantaisie pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, je suis sur cette lancée-là. De toute façon, c'est vraiment mon genre préféré, chouchou. Le premier roman s'appelait « L'assoupi » et... mes personnages ont beaucoup évolué entre l'assoupi et le dernier, l'enragé, puisque l'héroïne de l'assoupi était quelqu'un de vraiment très... une personne gentille, assez naïve, assez innocente, qu'on a un petit peu obligé à faire le tour du monde pour prévenir un petit peu tous les peuples du danger qui rôdait sur ces royaumes-là. Le deuxième, enfin moi je le compte comme un deuxième, mais c'est une trilogie. Cette fois c'est une
trilogie qui compte pour un.
Oui, moi pour moi ça compte pour un parce
Allez.
Que. En fait je l'ai écrit comme un one shot, donc voilà, il a été après divisé en trois parce qu'il était un petit peu trop épais sinon. Voilà, et donc là on change un petit peu. Cette fois on n'a plus une héroïne, on n'a plus une ambiance avec des fées, avec des créatures un petit peu étranges. Là, on est toujours dans la fantaisie, il y a toujours de la magie, mais on n'a pas de minotaure, on n'a pas de centaure, comme il pouvait y avoir dans l'assoupi. On a justement un monde où la magie est censée avoir disparu, et finalement, non. voilà. Et le héros qui n'a rien du héros au départ, au début du livre, va l'apprendre à ses dépens.
Voilà. D'accord. Et comment il s'appelle celui-là, cette trilogie-là ?
Excuse-moi, effectivement, j'ai oublié
ça
le principal.
Ça peut servir aux auditeurs s'ils ont envie de creuser.
C'est ça, c'est Elijah.
Elijah.
Le prénom du héros.
De l'anti-héros, non ?
De l'anti-héros, ouais, on pourrait dire. Qui est aussi Ménestrel, parce que la musique, c'est important pour moi aussi. Donc, voilà. Le dernier, celui dont on va parler tout à l'heure, je pense, plutôt L'Enragé, qui est le dernier sorti, où là, je disais que mes héroïnes ont complètement évolué, ont changé petit à petit.
Du poil de la bête.
Oh là, oui. Oui, quand tu dis la bête, c'est ça. C'est-à-dire que, non, elle est humaine, elle, contrairement à la première héroïne, qui était d'ailleurs mi-elfe, mi-humaine. Elle est complètement humaine, mais en période de bataille, elle a tendance à se transformer en quelque chose d'un peu plus sanglant, on va dire, d'un peu plus sauvage. Voilà.
Ça ne peut pas l'enrager pour rien, en même temps.
C'est ça. Oui, j'ai toujours des titres assez courts et puis...
Donc on répète, il y a l'assoupi, après il y a la trilogie Elijah et le dernier, L'Enragé.
C'est ça.
De Jennifer Tellier. Eh bien super, donc ça fait quand même déjà 5 romans, hein, je ne me trompe pas.
C'est ça.
J'ai compté jusqu'à 5.
C'est bien.
On progresse. Et depuis quand tu écris ? Parce que du coup 5 romans, en combien de temps tu les as publiés ?
Eh bien... Pas en tant que ça, en fait, parce que j'ai commencé à écrire il y a à peu près 9 ans.
D'accord.
Ah non, parce que je me suis posé la question tout à l'heure, oui. Donc ça doit être 8 ou 9 ans. Voilà, avant non, en fait.
Tu écris depuis 9 ans et tu es publié depuis...
Depuis le premier, ça a été en 2016, c'était L'Assoupi, chez Anyway, qui a été après réédité chez Nanashi. Donc depuis 2016.
Très voilà. Bien. Donc ça fait 6 ans.
Ah oui, déjà.
Je t'ai compté jusqu'à 6.
Et voilà. Mieux que moi, parce que je ne voyais pas ça si loin.
5 tomes en 6 ans, c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. J'ai souvent des auteurs prolifiques au micro de La Voix de la Plume, c'est bien. De toute façon, je pense qu'une fois qu'on s'est lancé dans son activité d'auteur, on est prolifique par nature, parce qu'en fait...
Parce qu'on aime ça.
On aime ça, exactement. Ouais. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour créer du coup ces différents univers et ces différentes intrigues? Parce que du coup, c'est pas des, enfin, ça se rejoint pas du tout. C'est
pas du tout.
Il y a trois romans, enfin, trois histoires très différentes, trois univers différents.
Voilà, surtout trois mondes très différents. Oui. Je dirais que j'ai pas une source d'inspiration particulière. C'est juste que je me suis imprégnée de pas mal de choses. Comme beaucoup de livres.
Une auteure qui lit, voilà qui est originale.
Voilà. En fait, au début, je lisais beaucoup en anglais et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, je me suis dit non, mais là, il faut... Non. Il faut que je lise vraiment en français pour vraiment être dans le bain et pour simplement le style d'écriture être aidé, on va dire, en baignant dedans. Mais comme j'aimais beaucoup d'auteurs anglo-saxons, anglophones, c'était bon. Mais tant pis, c'est pas grave. Maintenant, il y a des livres en français qui sont très très bien aussi.
Il y a des auteurs de fantasy français qu'il faut pas louper.
J'en connais. donc voilà, les livres, les films. Je dirais aussi beaucoup le jeu de rôle. Uh-huh. Ouais, parce que alors ça j'ai commencé assez tard aussi, enfin il y a peut-être une douzaine d'années où de manière hebdomadaire on était donc autour d'une table avec un maître du jeu qui
à la Donjons et Dragons un peu.
Voilà, alors pas ce jeu-là, mais voilà dans ce style-là effectivement on a commencé par une histoire de fantasy qui vient d'un livre de Mathieu Gaborit, justement français. Et excellent. Donc voilà, c'était toutes les semaines, on était dans un personnage. Et je sais très bien qu'autour de la table, on était 5 plus le maître du jeu. Les 5, là, on était mais vraiment très attachés à nos personnages. Le maître du jeu nous a tué nos personnages à un moment, mais on lui en a voulu. C'était terrible. Enfin voilà, du jeu de rôle, il y a eu une certaine frustration justement qui est apparue. C'est-à-dire que je ne pouvais pas... faire ou dire tout ce que je voulais autour de la table et je l'ai écrit du coup.
Et voilà, du coup, tu as inventé d'autres personnages. Et...
Voilà, alors qu'ils n'avaient rien à voir, hein, qui n'étaient pas du tout dans le monde de Mathieu Gaborit ou d'un autre. Voilà, j'ai créé le mien et j'ai juste gardé le nom que j'avais créé aussi, mais d'Alderon pour... Et Zégorias, pas des prénoms faciles à porter tous les jours, mais...
pas dans ce monde, en tout cas.
Voilà. Oui, on m'a déjà fait la remarque, hein, mais... ouais, c'est un peu compliqué, je dis pas oui, mais enfin, Michel et Bernard chez des elfes, c'est un peu...
Michel peut passer encore, éventuellement.
Oui, bah oui, parce Bernard, que dans les anges, tout ça, voilà. Mais bon, donc, voilà, le jeu de rôle m'a beaucoup inspirée. Oui.
Super. Parle-nous un petit peu de toi aussi. Du coup, on commence à voir un peu ce que t'as fait depuis quand t'as commencé à écrire. Mais ton parcours à toi, c'est quoi ? Avant d'écrire, parce que du coup, si t'es n'écrit que depuis 9 ans.
Alors,
que faisais-tu ?
Alors, mon parcours à moi, c'est un petit peu... je me suis cherchée pour les études, jusqu'à ce que je trouve. J'ai fait une fac d'anglais, je suis devenue prof d'anglais, forcément.
C'est pour ça que tu lisais en anglais.
D'où les lectures en anglais, effectivement. Mm-hmm. Grande fan de littérature, des classiques, hein, d'abord. Hein. C'était pas du tout la fantasy au départ, hein, d'ailleurs. Et puis voilà, prof d'anglais pendant... longtemps. je suis extrêmement vieille. Et, et donc, j'ai arrêté d'être prof il y a quelques mois, quelques années maintenant, pour des soucis de santé. Et du coup, maintenant, je ne fais qu'écrire.
Waouh, ouais. Tu vas faire des envieux, hein. C'est pas souvent que je reçois un auteur qui écrit à temps plein. Ouais. Une auteure qui écrit à temps plein. C'est formidable. Je suis très contente.
Je ne te le fais pas dire.
et du coup, est-ce que tu te sens plus prolifique depuis que tu écris à temps plein ou est-ce que tu écris à peu près au même rythme finalement ?
Alors, disons qu'avant, il y avait une certaine urgence à écrire parce que j'avais beaucoup moins de temps Et que du coup, entre les heures de cours et puis les copies, les choses à préparer, j'ai pas le temps, puisque évidemment c'était le boulot en premier. Et je me jetais dessus un petit peu. Maintenant, ça dépend en fait. Quelquefois, je vais me réveiller avec une idée et je me dis vite.
Tu retrouves cette urgence.
Je retrouve l'urgence, voilà. Quelquefois, je me lève en me disant. Ah, mais qu'est-ce qui va leur arriver aujourd'hui ? Parce que j'ai plus ou moins un plan, hein, mais qui peut être souvent détourné par mes propres personnages.
J'aime ça.
Donc, ils ont leur vie propre un peu. Hein, et voilà, donc le rythme est différent, puisque normalement, j'ai beaucoup plus de temps pour. Et j'en prends plus, mais il y a des moments où, là par exemple, je suis en train d'écrire quelque chose qui est toujours de la fantaisie, mais qui se passe dans un... Alors géographiquement et historiquement, il ne faut pas que je me trompe, parce que ça se passe quand même dans le monde réel. Donc il faut que je fasse des recherches, et ça, ce n'est pas ce qui me plaît le plus quand même.
Donc du coup, ça, tu rames un peu plus sur cette partie-là que tu as pu faire avant.
Exactement.
Mais du coup, tu peux prendre le temps de le faire aussi plus tranquillement. Et...
Ah oui, voilà, c'est ça.
Donc du coup, le quotidien d'un auteur, en tout cas pour toi, c'est si tu te laisses porter un peu aussi par l'envie de ce qui va se passer en se réveillant, quoi.
Oui. Ou alors, il y a des jours où ça va être l'envie, mais il y a des fois où je vais simplement me forcer un petit peu au départ, parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément envie, mais on se dit bah faut avancer quand même cette histoire-là, parce que il y a quelques fois où on va être bloqué sur un événement de l'histoire où c'est une partie qu'on va pas aimer spécialement, mais il faut qu'on passe par là. Mm-hmm. On ne peut pas la sauter, cette partie. Alors, je pense, par exemple, aux batailles. Où, je sais bien qu'il faut qu'elle y soit, la bataille. Enfin, où l'est, bataille, d'ailleurs. Mais...
Ce n'est pas ton kiff d'écrire la bataille.
Voilà. Moi, je suis plus dans les personnages, la psychologie de chaque personnage, les relations entre eux.
Je compatis.
Le sang qui éclabousse celui d'en face. Bon, bah oui, il en faut bien, mais bon, pas trop quand même.
Et du coup, est-ce que tu t'obliges tous les jours à écrire ou pas forcément ?
Alors, en général, oui. Après, il y a des jours où ça va pas être possible parce qu'il peut y avoir des événements qui font que, de toute façon. Ou alors il peut y avoir un jour sans où vraiment là ça vient pas, je me mets devant pendant une heure, il y a rien qui ça veut pas donc non, mais globalement oui.
Mais tu t'es quand même mis devant pendant une heure, donc ça fait l'effort de te poser. Après c'est pas venu, mais
ouais. Et j'ai eu une période aussi, mais peut-être un an où j'ai pas tellement écrit parce que c'était j'avais commencé quelque chose qui devait se passer en fait 2 siècles après l'histoire d'Elijah.
D'accord.
Donc Elijah devenait finalement une espèce de légende dans cette histoire. Et j'ai eu l'impression que ça me menait nulle part. Donc j'ai laissé dans un coin et pendant une semaine ou deux, j'ai dit non, il faut que je me sorte ça de la tête. Et j'y reviendrai pour voir si je peux en faire quelque chose ou pas. Puis finalement, je l'ai laissé de côté.
Voilà. Donc il attend dans un tiroir heure.
Ouais, je ne sais pas s'il aura une heure, mais pas, voilà. Ouais. Ça peut arriver, c'est la première fois que je mets quelque chose de côté comme ça, mais bon.
C'est pas perdu, en tout cas.
Oui, c'est pas
on
loin.
Sait jamais. L'enragé. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu plus de l'enragé. Déjà, c'est un tome unique. En fantasy, c'est pas très souvent, finalement, qu'on voit des tomes uniques, des one-shots, comme tu disais tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, finalement, je me rends compte que t'as écrit Elijah comme un one-shot, même si c'est une trilogie, et que La Soupie, c'était aussi un one-shot. Donc,
ouais.
Toi, t'aimes bien quand même les écrire d'une traite. Mm-hmm. Parce que j'allais te demander pourquoi t'as fait ce choix, mais finalement, c'est un choix qui s'impose à toi plus qu'autre chose.
Ouais, c'est un choix qui n'en est pas vraiment. Parce que, en fait, j'aime ça déjà à la lecture. Je préfère, quoique, qu'est-ce que j'ai aimé, L'Assassin Royal de Robin Hobb.
Ah oui, là, il n'y a pas qu'un seul tome, là.
Il y a quelques tomes, hein. Mais finalement, à lire, je lis les deux, donc ce n'est pas tout à fait vrai.
Mais, tout bien réfléchi.
Ouais. Je dis un truc, puis 2 secondes après, je dis que c'est une bêtise, mais ce n'est pas grave. Non, mais à écrire, je préfère ne pas avoir de... Je préfère que ça ne dure pas des années et des années. Non, je veux que ça soit une histoire.
Et puis tu ne te limites pas, en fait. Tu dis j'écris l'histoire, puis je verrai bien ce que ça fait à la fin.
Le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant mais là, il faut une suite. Bah ouais, mais non, c'est pas prévu. Et l'autre jour, quelqu'un m'a demandé aussi s'il y avait, alors non pas une suite, mais une sorte de spin-off, en fait, de pourquoi j'écrirais pas sur, puisque c'est un monde où il y a plusieurs royaumes, des histoires sur tel et tel royaume.
Dans un autre royaume.
Voilà. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, que pour l'instant,
c'est pas prévu,
non,
mais pourquoi pas,
ouais. Surtout, je pensais au royaume de Sarah Lundé. Je sais pas si tu vois un charmant royaume dirigé par des femmes qui ne sont pas tendres du tout avec la gente masculine. Donc. Et voilà. Donc,
un sujet qui pourrait être d'actualité aussi, en mode féministe.
Ouais, mais justement, là. Les femmes ne sont pas toutes blanches et innocentes là-dedans. Hein. Il y a de gros problèmes. Mais ça serait une idée, ouais.
D'accord. Mmh. Oui, parce que du coup, finalement, t'écris un tome, et puis après, t'écris autre chose, dans un autre univers, et à chaque fois, ton univers, je veux pas dire il meurt, mais ça te fait rien de le. C'est une honte de l'abandonner.
Non, ça me fait toujours du mal d'abandonner mes livres une fois qu'ils sont écrits. En fait, quand c'est terminé. J'ai un moment où je suis super contente parce que je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à boucler l'histoire. C'est bon, après, évidemment, il faut le ressortir pour les 50 relectures et voilà. Mais au moins, je sais que je suis arrivée au bout et que j'ai
ça se tient. Ça,
et... Voilà, tout est cohérent et je suis allée où je voulais. Mais je suis triste aussi parce que les personnages ont le temps de devenir des membres de ma famille, quoi, en fait.
Bah, ils vivent dans ta tête, hein, c'est sûr.
Ah ouais, oui.
En attendant qu'ils vivent dans celle des lecteurs, ils vivent déjà dans la tienne, donc ils t'accompagnent. Ouais. Donc si, il y a quand même un petit pincement au cœur.
Ouais, et à chaque fois. Alors après, bon, ça s'atténue. Hein. puis je sais qu'ils sont pas loin, mais voilà, c'est vrai que c'est triste de les quitter, ouais.
Donc voilà, tu dis que peut-être réexploiter un des univers pour approfondir.
Ça serait pas tout à fait pareil, puisque ça serait certainement pas. Quoique, Kern, donc l'héroïne de L'Enragé, pourrait éventuellement pourrait apparaître dans un spin-off si c'était sur Sarah Lundé, puisque.
Si c'était à la même époque, parce qu'après tout est possible aussi, ça peut être à une époque
différente. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que je m'étais dit, tiens, 200 ans après Elijah, ça pouvait être une bonne idée, et puis finalement. Non, c'était trop mou, il n'y avait pas assez d'action.
Ça mature un peu plus, peut-être.
Voilà.
Tu as dit tout à l'heure que tu avais été édité par une première maison pour La Soupie, puis repris par Nanashi. Je sais que L'Enragé, c'est encore une autre maison d'édition, c'est 404 éditions.
C'est 404, oui.
Pourquoi ce choix d'avoir multiplié les maisons d'édition si finalement tu n'écris que de la fantasy, donc toujours le même genre ?
Alors, le premier, c'est parce que c'est un. J'ai choisi entre les personnes qui m'avaient dit oui pour La Soupie. Donc, j'ai choisi l'une. Et puis, la maison, au bout de quelques temps, c'était une toute petite maison. Et la personne qui s'en occupait a été hospitalisée, était malade. Donc, bon, la maison a fermé. J'ai ensuite.
C'est une bonne raison pour changer de maison.
Voilà. Ensuite, je suis rentrée chez Nanashi. Il y a une équipe super, donc
Nanashi qu'on recevra au micro de la Voix de la Plume cette année. Je ne sais pas encore quand, mais on recevra Jérôme de Nanashi.
D'accord. Et donc il a d'abord édité L'Enragé, pas du tout. Elijah. Ensuite, il a repris La Soupie. Et L'Enragé n'était pas terminé quand tout ça a été publié. Et il y avait un concours sur la plateforme 404 Factory. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, puisqu'ils ont une bonne visibilité. Pourquoi pas ? J'ai tenté, j'ai gagné. donc allons-y. Et effectivement, donc ça fait un petit peu de
pub. L'Enragé, c'est 404 éditions parce que tu as gagné le prix. Donc comment ça s'appelle ?
Le Grand Prix 404.
Le Grand Prix 404. Voyez-vous ça ?
Ouais.
Eh bien, félicitations.
Merci.
Tu as aussi été en shortlist d'autres concours ou d'autres prix.
Alors,
pas dire une bêtise, il me semblait.
Alors, j'ai eu un truc chez Cultura, mais en fait, je l'ai su par hasard par un autre auteur qui m'a dit tiens, t'as vu, on est chez. Alors, c'était quoi les jeunes espoirs ou je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était un prix chez Cultura. Bon, j'ai pas gagné.
Mais t'as quand même été.
Mais on était finaliste. Voilà, j'étais finaliste. C'était sympa quand même. Et puis là, en ce moment, il y a le PLIB. Alors, c'est le prix littéraire de l'imaginaire dans la booksphère. Voilà, excuse-moi, je... c'est surtout sur Insta, en fait, qu'il y a ça. Et donc, je suis... Alors, au début, on était 200, 300, je ne sais plus. Et alors, déjà, j'étais super contente d'être parmi ces gens-là.
C'est parce que... sympa d'être sélectionnée, bah oui.
Voilà. Après, on a été réduit à 80. Là, j'étais... Ouh. Je l'ai appris aux Imaginales, d'ailleurs, que j'ai rencontré la,
c'est ce qui la personne c'est là-bas. C'est ça que j'avais en tête.
et maintenant, je suis dans les 25 sélectionnés.
Ça se rapproche.
Voilà, et donc, bah, il reste un moment où... Enfin, à la fin du mois, on va savoir qui sont les 5 finalistes, et voilà.
D'accord. 5 finalistes et le...
Et après, alors, je ne sais plus quand est le gagnant, je ne sais plus quand ça se passe, mais plus tard.
Il y a le temps.
Voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est bien. Donc, tout ça pour l'enrager à chaque fois, hein, le prix 404 et le Cultura et aussi le PLIB.
C'est ça.
Toujours ouais. Pour l'enrager. Donc, voilà. S'il y en a un, peut-être à lire plus que les autres, l'enrager.
Oui, parce que je dirais il est plus abouti, il est plus... en fait, plus j'écris et plus je lis aussi. Et je pense que plus le vocabulaire s'étoffe un peu plus. Et je pense que l'assoupi... Bon, allez-y quand même. Hein.
Non, mais là, c'est toujours intéressant aussi de voir ce qu'un auteur a fait avant. Mais
Oui. Et puis, en fait, je trouve qu'il est plus simple, mais que ce soit au niveau de l'histoire et au niveau de l'écriture. Et il est plus simple, il est plus naïf aussi. Je disais ça pour l'héroïne, mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que moi aussi, il n'y allait pas. Ça, c'était pas il y a si longtemps, mais bon. Ceux qui aiment les endroits, alors ça peut être féerique, puisqu'il y a le pays des fées, il y a les mines des nains, là c'est un peu moins féerique hein, par contre. voilà, il y a les minotaures, donc on a une partie un petit peu mythologique, sympa. Mais je pense qu'il est plus simple. Voilà. Même l'histoire est plus linéaire, en fait, puisqu'on sait, dès le départ, là où Alderaan et ses amis vont devoir passer pour faire passer...
C'est tout de suite où on veut en venir.
Quoi. Voilà, exactement. Elijah, déjà, est un peu plus compliqué, parce que là, ça part dans tous les sens, et le héros et ses amis ne savent pas du tout ce qui va pouvoir se passer, ce qui va bien pouvoir se passer après. Donc, du coup, je pense que le lecteur est aussi dans une... Dans une dynamique à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ils sont attaqués, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi on leur en veut, pourquoi un tel a été enlevé,
Donc ça crée un peu plus de suspense aussi peut-être.
Voilà. Et l'enragé, alors quand je dis qu'il est plus abouti, c'est que en plus on a une quatrième de couverture qui ne couvre pas grand-chose de l'histoire, c'est-à-dire que quand on lit la quatrième de couverture,
On a lu les 50 premières pages à peu près. Hein.
Ouais, peut-être un peu plus. En fait, on a l'impression que ce qui a marqué derrière, ça, c'est vraiment tout le livre. C'est-à-dire que c'est la quête de deux héritiers pour un royaume qui sinon va tomber aux mains des rois autour, hein, des vautours même, on pourrait dire d'ailleurs. En fait, les héritiers sont très rapidement...
Retrouver
mort ou vif, ça je ne vais pas le dire. Mais
l'histoire continue.
Et l'histoire continue et il se passe d'autres choses qui ont quand même des enjeux beaucoup plus importants que finalement ce simple royaume. Voilà.
Donc ça c'est tough.
Ça c'est tough, oui.
Super. J'imagine que quand on décide du coup, comme toi, de participer à un concours, ça veut dire qu'on s'expose aussi à la critique. Ouais. Après, tout auteur s'expose à la critique, de toute façon, puisque à partir du moment où on écrit pour être lu, voilà. Mais quand on fait un concours, on est vraiment mis en compétition avec d'autres. On n'est pas juste on va dire, en lumière aux yeux des lecteurs. Comment ça se passe pour toi? Comment tu prends cette critique-là quand tu gagnes ou quand tu gagnes pas
Alors déjà, 404 Factory, moi, quand j'ai mis l'histoire sur la plateforme, j'étais persuadée que j'allais perdre de toute manière. Donc je me suis pas du tout mis la pression parce que je me disais, il y a du monde hein, qui met son histoire. Donc c'est bon, allons-y.
Ça coûte
qui,
rien.
Qui ne tente rien à rien, quoi. Bon. Et ça a marché. Donc, les critiques après, une fois que c'est sorti, alors déjà, il y a eu vraiment beaucoup de gens enthousiastes et ça fait super plaisir parce qu'en plus, je suis quelqu'un de super sensible là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais prévu le coup, je me souviens que j'avais dit à une amie, je me suis dit, quand la première critique négative va tomber, ça va me tuer, quoi. Et effectivement, il y en a eu quelques-unes. Alors, c'était pas des critiques super méchantes ou c'était des petites choses sur justement, une bataille n'a pas duré assez longtemps. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est pas le but non plus de. Enfin, c'est pas mon. C'est pas ce que
oui, mais il y a des lecteurs qui kiffent ça, les batailles. Hein.
Bah oui, voilà. C'est-à-dire que j'ai déjà lu aussi du Gmail ou Gmail, je sais jamais comment le dire, parce que je le lis, mais je le dis pas. Qui a écrit Légende, Drus, tout ça. Enfin, voilà. Et là, il y a énormément de batailles. Et alors, j'ai aimé, mais il y a des fois, je me dis. Ça y est, des fois, vous pouvez vivre aussi au lieu de vous battre, parce que c'est un peu pénible ouais, au bout d'un moment.
Comme toi, je suis pas très fan d'écrire des batailles, mais je suis pas très fan d'en lire non plus.
Ouais, donc voilà. Enfin, il y a eu des gens qui m'ont surpris en disant, et quand je dis des gens, il y en a au moins 3 ou 4 qui ont dit oui. Alors, il y a une romance. Bon, ça m'a pas trop dérangé parce que ça prenait pas toute la place et que l'histoire principale était quand même. Voilà, c'était pas la romance, ça c'est... Et j'étais surprise en fait que ces gens disent ça ne m'a pas dérangée. Je me disais, mais depuis quand ça dérange
qu'il y ait une romance ? Les histoires d'amour dans les...
Ben, apparemment, les gens veulent, enfin pas tous, hein, mais ces personnes-là ne veulent pas tout mélanger. C'est-à-dire que c'est soit on fait de la fantaisie, soit on fait de la romance, soit on fait de l'historique, soit on fait du fantastique, soit on fait autre chose, mais... on ne va pas mélanger deux choses. Alors que, pour moi, dans la vie, tout se mélange déjà. Et la romance fait partie de la vie. Donc, d'ailleurs.
Oui, il n'y a rien de bizarre de lier des personnages d'une manière ou d'une autre à un moment donné de leur histoire.
Voilà, et toutes sortes de romances d'ailleurs, puisque, je ne dis pas dans quel livre, mais il peut y avoir. Il y a une romance entre hommes, il y a une à deux d'ailleurs. Une qui est un peu secondaire, mais l'autre non. Il y a vraiment. Comment dire ? Ça fait partie de la vie, donc je ne vois pas pourquoi ça n'entrerait pas dans l'histoire.
Puis ça soulève des points aussi, du coup, à certaines époques. On est dans de la fantaisie médiévale malgré tout, même si on est dans un univers inventé. Donc ça soulève aussi des points sociologiques
ouais, complètement.
Importants. Entre castes aussi, il y a des romances entre castes.
Voilà, exactement. des gens qui ne peuvent pas être ensemble. Eh ben voilà. Donc
participe à la complexité de l'histoire finalement.
C'est ce que j'allais dire, c'est que la vie c'est compliqué. Donc les romans c'est censé représenter pas complètement la vie parce que sinon ce serait peut-être un peu tristounet. Mais enfin moi c'est pour ça que je fais la fantaisie en même temps, c'est sortir un petit peu du réel, mais en mettant quand même des éléments qui arrivent dans notre vie. Voilà, c'est tout.
Eh ben c'est parfait. Moi je trouve ça très bien aussi. Elisabeth.
C'est passionnant, mais voilà, c'est pas mon type de lecture. Donc je découvre, quelque part, je découvre. Voilà.
Super. Est-ce qu'on peut te retrouver bientôt dans tes salons combien je veux tout savoir.
alors, il y aura des librairies, mais bon, ça, voilà, je sais pas. Si, il y en a une quand même dont je vais parler, parce que c'est le 15 bis, donc c'est un Gibert ou Gibert jeune, enfin anciennement Gibert, voilà. Donc à Paris. Et là, comme il y a une table ronde et puis les résultats du concours du Plib, voilà, j'en parle quand même, puisqu'on sera, en fait, on sera 5 auteurs parmi les 25 invités là-bas. Avec dédicace après. Donc ça sera le 26 mars dans l'après-midi.
C'est un
samedi, oui. Oui, oui. 15h, 19h. Il y aura ensuite Trolls et légendes. Alors ça, j'attends avec impatience.
Un festival
en Belgique, à Mons. Ça, c'est mi-avril, 16-17 avril. On a ensuite les Imaginales avec Nanachi à Épinal. Donc ça aussi, j'attends qu'une grande impatience ces festivals-là, c'est génial. Donc ça, c'est 19-22 mai. Ensuite, le Festival de l'Imaginaire de Bouillon, en Belgique, encore. Je ne suis pas belge, hein, pourtant, mais...
Coucou. Non, mais les Belges, autant les Français aiment les polars que les Belges sont un bon public pour l'imaginaire.
Ouais, ouais. Ils aiment aussi les fêtes historiques.
Ah, exact, oui. Exact. Ouais.
Ben justement, en plus, c'est des fêtes là, en costume, hein, tout ça. Donc c'est... Alors bon, pas forcément très historique quand même, hein, puisqu'il peut y avoir des créatures étranges. Mais voilà, donc ça, c'est fin juillet, de 22-24 juillet. Ensuite, un salon du livre dans le Val d'Oise à Saint-Martin-du-Tertre en octobre. Et à confirmer Valjoli Imaginaire. Alors, c'est dans le Nord. Hein, donc voilà, encore une fois, là, c'est pas la Belgique, mais pas loin. 22-23 octobre, donc ça, c'est, je sais pas encore, ils sont en train de monter le salon. Oui, donc
c'est un peu loin.
Voilà, oui, on arrive en octobre, ça commence à...
Quand même pas mal de dates, finalement, sur l'année, c'est plutôt cool.
Oui, puis il y a peut-être des choses qui sont pas encore... Enfin, voilà, qui sont pas encore au point, mais...
On peut te retrouver où, sur les réseaux, si on veut justement savoir où tu es. Alors, où est-ce qu'on peut te croiser?
Je suis sur Facebook et Insta. Donc, c'est Jennifer Tellier, ou Jennifer Tellier auteur sur Insta, je crois. Donc,
Tellier, T-E-2-L-I-E-R.
C'est ça, J-E-2-N-I-F-E-R. Et non pas avec un Y, je ne vends pas de vêtements. Et Jennifer Tellier, voilà. 2-N-2-L.
Très bien. L'auteur. Des projets pour 2022, un nouveau roman, je ne sais pas, quelque chose.
Alors oui, je vais commencer quelque chose, mais quand j'aurai terminé déjà une nouvelle qu'on m'a demandé d'écrire, c'est une nouvelle justement, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure en disant que il fallait que je fasse attention historiquement et géographiquement, puisque ça sera dans l'Angleterre victorienne. Et
je vois Elisabeth qui fait des gros yeux. Ouh là là.
Donc, je consulte des plans, je consulte des... Mais alors des fois, je fais des recherches sur des arbres, sur des... Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que quand je fais mes propres mondes, je fais ce que je veux, du moment que c'est cohérent avec l'ensemble du monde et de cet univers. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Là, voilà. Donc ça apparaîtra dans un recueil... dont on va bientôt parler sur Insta. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je dois dire. Si je peux pas encore dire trop de choses. Donc,
d'accord.
Voilà.
Alerte spoiler.
Et donc après, quand j'aurai terminé ça, parce que j'aime pas faire deux trucs à la fois, j'ai eu justement ces fameuses idées en me réveillant, en me disant vite, 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 faut que j'écrive sur un bloc. Et voilà, je voulais changer complètement du voyage initiatique, de la quête comme ça. Où, mm-hmm. Là, les choses se passeront avec moins de voyages et avec plus de voyages intérieurs, on va dire. Mais toujours dans la fantaisie.
D'accord, toujours dans la fantaisie.
Voilà.
Très bien. Eh bien, on a hâte d'entendre plus de nouvelles sur tout ça.
je te dirai tout ça.
on aura l'occasion de se voir aux Imaginales et à Bouillon, du coup, en plus. Donc,
voilà.
C'est super. Je pourrais tenir les auditeurs au courant aussi.
Super.
Avec des nouvelles prises à la source.
Ouais.
Pas prises sur Insta. Je vous propose un petit interlude musical et puis après on va passer à notre invitée Elisabeth Van Adriesch qui fait partie des compagnons de Jeanne et qui va tout nous dire sur les futures fêtes Jeanne d'Arc. J'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti. Je vous propose Ameno de Hera, un titre qu'on a bien connu dans les années 2000. C'est parti.
Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare impera vi, ameno, dimere, dimere, mangiro. Mantiremo, ameno. Ameno, ameno, dore, diremo amen.
Et voilà, nous sommes de retour dans la Voix de la Plume. Vous êtes avec Aurore, Jennifer Tellier, auteure de Fantasy, et Elisabeth Van Dedrièche, des compagnons de Jeanne. Elisabeth, est-ce que toi tu lis un peu de Fantasy ?
Eh bien j'ai honte, mais non, pas du tout.
Faut pas avoir honte, j'imagine que tu dois avoir beaucoup d'autres lectures du coup.
Oui, c'est vrai que bon, par rapport à une passion, je dirais, de jeunesse, hein, puisque je suis dans le médiéval depuis l'âge de 6 ans.
Ah ben oui.
Premier défilé 1961 en costume, et je suis de 54, donc vous voyez. Et c'est une passion qui, je dirais, qui me dévore tout simplement. Donc je lis beaucoup de documents historiques, je fais des recherches également, mais je lis aussi des BD historiques, donc je suis ouverte à toute lecture qui touche l'histoire.
D'accord, donc toi ton dada c'est l'histoire,
c'est
et
l'histoire.
Ça tombe bien parce que tu vas avoir plein de choses à nous raconter.
Voilà.
Tu fais partie donc des compagnons de Jeanne. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est, quel est leur rôle et quel est ton rôle dans cette compagnie ?
Alors, les compagnons de Jeanne sont une association de la loi 1901 qui a été créée en 1973 par, bien sûr, mon père, M. Van Dendriesch, qui lui avait déjà défilé aux fêtes de Jeanne d'Arc en 1935. Donc,
oh là
vous voyez,
là.
C'est vraiment une histoire de famille.
En effet.
Donc, en 1973, il a créé cette association, puisque après la guerre, forcément, les fêtes de Jeanne d'Arc à Compiègne n'avaient plus d'ampleur, ils n'attiraient plus quiconque. Donc, mon père a décidé de créer cette association. Et les compagnons de Jeanne, en fin de compte, sont les chevaliers qui entouraient Jeanne lors de ses batailles.
D'accord.
Vous avez l'Aïr, Xaintrail, Dunois, donc ce sont des personnages qui ont existé, qui ont bataillé et qui ont bien sûr du blasonnage. Et je travaille énormément sur le blason, ça a été mon premier travail dans l'association. Costumière à l'âge de 16 ans.
Oi, oi, oi. Donc du coup, très bien j'imagine ?
Je couds, oui, très bien. Je fais énormément de costumes depuis très très longtemps. J'ai la chance d'avoir appris à coudre à l'école, parce qu'à cette époque-là, on apprenait encore à l'école. Et puis d'avoir de la famille qui se débrouillait très très bien en couture. Et donc, c'est une passion. Et contrairement à ma collègue, moi, quand j'ai fini un costume, je suis ravie. Mais vite, je passe à un autre.
c'est pas pareil, c'est pas une personne.
Ah non, 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 mais.
Mes personnages sont des personnes.
Ah oui. Et moi, c'est justement pour mettre sur le dos de quelqu'un.
C'est exact.
Donc, la fierté, bien sûr, quand quelqu'un porte le costume que vous avez réalisé, pour, je dirais, une jeune de 20 ans, 25 ans, c'est super, quoi.
Voilà. C'est sur mesure, du coup ?
Absolument, oui.
Et les costumes que tu fais d'année en année pour les fêtes, vous les réutilisez
Absolument, oui, oui. On a des costumes, d'ailleurs, qu'on a réussi à récupérer qui dataient d'entre les deux guerres, des années 30 et 35. Ouais. On en a encore quelques-uns qu'on essaye de sauvegarder. Sinon, tous les ans, on en refait par rapport aux bénévoles qui s'inscrivent chez nous. Et on a quand même un panel de costumes, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais passe-partout, qu'une personne taille 38 ou taille 40 et 42 peut mettre. Donc, surtout pour les hommes, c'est relativement facile. Pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué.
D'accord. Donc, alors, du coup, pour être sûr que je comprenne bien, donc ton père a créé l'association Les Compagnons de Jeanne en 73 et du coup a relancé les fêtes Jeanne d'Arc à Compiègne. Mais c'est des fêtes qui existaient déjà. Est-ce que
oui,
tu parles de fêtes entre deux guerres ?
Oui, ce sont des fêtes qui existent depuis 1903. Donc, c'est M. Fournier-Sarlovès qui avait lancé les fêtes de Jeanne d'Arc. C'était spectaculaire.
À Compiègne.
À Compiègne. Ça durait une semaine. Il y avait des trains spéciaux qui venaient de Paris. Et à cette époque-là, les gens qui participaient étaient. Il y avait des notables à Compiègne, donc il y avait leurs propres chevaux, qui avaient leur propre couturière, donc c'était vraiment splendide, mais vraiment splendide. Nous avons encore des livrets de programmes où il y a 10 pages de programme quand même pour la fête de Jeanne d'Arc. Je pense qu'on ne pourra plus revoir ce type de fête, mais tous les ans on essaye de donner plus d'ampleur, plus de valeur, plus d'intérêt pour le public.
Là, du coup, depuis 73, c'est tous les ans.
C'est tous les ans, absolument.
Et la prochaine ?
Alors, la prochaine 21 et 22 mai, bien sûr. Alors, ça fait 2 ans que nous n'avons pas fait de fête Jeanne d'Arc, hein, à cause de la crise sanitaire, malheureusement. Alors, nous sommes tous ravis de pouvoir enfin enfiler le costume.
Ça fait deux ans que vous cousez, du coup
Alors, oui, on a fait. Alors, cette année, on s'est orienté beaucoup sur les garnitures de rue, puisque tous les oriflammes que vous voyez sur le marché médiéval qui sont accrochés d'une fenêtre à une autre, en travers de la rue d'Austerlitz, la rue Jeanne d'Arc, cette année, nous en avons refabriqué 70 à peu près.
Wow.
Donc c'est énorme et on a la chance cette année que la municipalité fasse faire des grands drapeaux, des oriflammes, avec les armes des compagnons de Jeanne pour mettre rue Saint-Corneille, plus l'hôtel de ville qui a été garni avec de nouveaux oriflammes l'année dernière, ça va être spectaculaire.
Aïe, 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 j'ai hâte. Et toi, cette passion du coup pour Jeanne d'Arc, tu nous as dit que ton premier défilé médiéval, c'était à 6 ans.
1961.
Ouais. Et c'était aussi pour les fêtes Jeanne d'Arc ?
Oui, c'était les fêtes Jeanne d'Arc qui avaient repris après la guerre de 40, forcément. Mais bon, petitement, c'était vraiment un petit défilé de la rue des Daumeliers à l'église Saint-Jacques, un dépôt de germes, place de l'hôtel de ville, et terminé. Là, d'accord. Maintenant, ça dure quand même sur 2 jours.
C'est beaucoup moins populaire.
Voilà. Avec, on doit avoir 3 ou 4 défilés sur les 2 jours. On a beaucoup d'animation, on a beaucoup de musiciens.
Oui, il y a beaucoup de stands aussi.
Absolument,
il y a un beau
marché
à côté.
Alors,
de ça.
Tout autour, pour donner un petit peu l'attrait, pour qu'il n'y ait pas que les défilés, depuis à peu près 91-92, nous avons créé ce qu'on appelle le marché médiéval, qui est indispensable. Nous essayons tous les ans de trouver des artisans qui font des choses très, très spéciales, pas uniquement médiévales, mais enfin qui font de l'artisanat. Beaucoup d'artisanat, des produits aussi. Alors, je ne vous parle pas de l'hypocras, n'est-ce pas? De l'hydromel également, que doit connaître ma collègue.
C'est des bonnes choses. Hein.
Elle croit que je bois. Et pas du
non,
tout.
Mais je pense que dans
mais
tes...
moi, oui.
C'est vraiment. Voilà. Donc, on essaye justement de rester très, très près des vieux métiers. Également. Et on a des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques, qui sont pour les grands et les petits. Alors, vous avez de la taille de pierre, vous avez des vitraux. Mais là, les enfants peuvent créer leur vitrail, peuvent toucher à la pierre, peuvent également faire de la calligraphie, de l'enluminure.
Donc, que les enfants ?
Non, les grands aussi, s'ils le veulent. Mais tout est gratuit chez nous et ce sont vraiment des ateliers pédagogiques. Et les enfants, quand ils voient le parc de Songeon qui s'ouvre, même le samedi à 9h, ils courent directement pour faire les ateliers. Et cette année, on a la chance d'avoir retrouvé nos maquilleuses. Donc, je l'ai appris aujourd'hui, on a nos maquilleuses qui vont être là pour les enfants.
Eh bien, ça fait beau, ça fait pas mal d'animation.
Énormément.
Oui, là, du coup, j'allais dire où est-ce que vous vous situez. Donc, effectivement, c'est le cœur, c'est rue Jeanne d'Arc.
Rue Jeanne d'Arc, le marché médiéval, rue d'Austerlitz, c'est sur le parking autour de la tour Beauregard. Mmh.
Et dans le parc.
Parce que le parc, c'est très pratique pour les enfants. Les parents peuvent se balader. Et dans le parc, il n'y a pas de souci. Mais nous, je tiens à dire que c'est une fête historique. Nous, on ne change jamais la date. C'est toujours le week-end à Compiègne, le plus près du 23 mai.
Parce que
le 23 mai 1430, c'est la date où Jeanne a été faite prisonnière. Alors, je ne dis pas à Compiègne, mais sur les berges de Margny-les-Compiègnes. De l'autre côté du pont, le pont de Saint-Louis, où il reste deux arches, d'ailleurs, que vous pouvez visiter. Elle a été faite prisonnière, donc en fin d'après-midi. Donc nous, toute notre fête est vraiment autour des dernières heures de liberté de Jeanne.
D'accord, c'est très précis. Mais du coup, on sent le côté historique précis.
C'est pour ça qu'on ne peut pas changer de date. Et malgré, on aurait eu la possibilité de faire une fête de Jeanne d'Arc l'année dernière, au mois de septembre, au mois d'octobre, on a totalement refusé, puisque ça ne correspondait pas du tout à notre fête.
Mais c'est pas dans l'esprit, quoi.
Voilà.
Je comprends. À Compiègne, tous les ans, alors, si tu vas me dire ça n'a rien à voir, on fait l'élection de la reine du Muguet, mais je me suis rendu compte sur Instagram que aussi en fait l'association Les Compagnons de Jeanne élisait une Jeanne.
On choisissait.
Vous choisissez.
Voilà.
D'accord. Vous choisissez une Jeanne. Donc tous les ans, c'est une nouvelle Jeanne qui doit donc représenter la Pucelle d'Orléans. Comment on choisit cette Jeanne?
Alors, il y a de nombreuses années, on a créé un dossier de candidature, tout simplement, et on l'envoie une année sur deux dans l'enseignement public et l'enseignement privé. Donc une année, vous avez une jeune fille qui vient du privé. Une année, vous avez une jeune fille qui vient du public.
Quels sont les critères pour postuler pour devenir Jeanne ?
J'ai repris justement les critères. Alors, il faut qu'elle soit automatiquement de nationalité française pour représenter Jeanne d'Arc. Vous comprenez que c'est indispensable. Il faut être domicilié à Compiègne ou dans l'Arc. On a quand même élargi énormément. La principale chose, c'est être baptisé. Vous allez me dire pourquoi. Et être de religion catholique, bien sûr. Pourquoi ? Puisqu'il y a la messe solennelle à Saint-Jacques le dimanche matin. Généralement, il y a même un évêque, parfois deux. D'accord. Et là, Jeanne d'Arc communie. Donc, on est obligé que la Jeanne d'Arc soit baptisée. Est une très bonne cavalière. Donc, nous, on demande à ce qu'elle ait un niveau 4, niveau 5. Au niveau équitation, c'est déjà un très bon niveau. Alors vous allez me dire aussi pourquoi ? Parce qu'elle a une armure de 18 kilos sur le dos. Et il faut qu'elle puisse monter à cheval, descendre à cheval. Et puis, je dirais, se tenir
parader,
sur le cheval, tout simplement. Et parader, voilà, la tête haute. Et enfin, être âgée entre 16 ans et 18 ans.
Ah, c'est précis quand même.
Ah oui, c'est précis. Mais ce n'est pas tout.
À quel âge elle avait Jeanne d'Arc quand elle s'est fait prendre ?
Elle s'est fait prendre en 1431 et elle est décédée en 1430, elle est décédée en mai 1431, elle avait 19 ans. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on essaye de ne pas dépasser 18 ans. Mais en général, les jeunes filles sont en première et terminale. Mm-hmm. Donc elles ont 16-17 ans. D'accord. La principale aussi, afin de pouvoir porter l'armure de l'association, elle devra, c'est très précis, mesurer entre 1m60 et 1m70.
D'accord.
Puisque l'armure n'est pas extensible. C'est une pièce de collection et qui se règle avec des lanières de cuir et s'habiller entre 36 et 40.
D'accord.
Donc vous voyez que c'est.
Parce qu'on va pas pour le coup, évident. On refait des costumes tous les ans, mais on ne va pas refaire l'armure.
Voilà, l'armure, c'est une pièce de collection qui appartenait à Madame Willelem, qui a fait la fête de Jeanne d'Arc en 1930 et qui a été offerte à l'association. Et tous les ans, c'est la même armure qui est entretenue par un bénévole.
J'avais vraiment pas d'idée qu'elle portait une vraie armure qui faisait 18 kilos. Enfin, oui, je suis bluffée.
Plus la jupette en côte de maille.
Rien que ça.
Alors, la jeune fille, bien sûr, l'essaye. Le capitaine d'armes la règle sur elle. Hein. On ne lui met pas pour la première fois le jour de Jeanne. Donc tout ça, ça se fait
dans
nos locaux. Voilà. On la fait courir, on lui fait monter l'escalier, on la fait mettre à genoux pour qu'elle s'habitue justement et être surtout à l'aise.
La pauvre.
À l'aise. Le rôle de la fête Jeanne d'Arc, c'est vraiment un rôle. Et les jeunes filles sont enchantées. Oui, et bah, pour oui, pouvoir endosser cette armure, l'association emmène cette Jeanne d'Arc choisie, je dirais, à Don Rémy et vos couleurs et Reims, oh, avant la fête, pour qu'elle s'imprègne de la vie de Jeanne, qu'elle visite la maison de Jeanne, le musée à Don Rémy, l'église où elle a été baptisée.
C'est vraiment une expérience immersive. Oui. Oui, c'est pas juste un rôle.
Deux jours, mais il faut vraiment que la jeune fille, je dirais, soit dans la peau de son rôle, quoi. C'est vraiment. Mais en général, elles ont bien mûri l'idée pour être Jeanne d'Arc. Ça fait des années qu'elles le souhaitent.
Ah, c'est super. C'est super. Tu nous rappelles la date ?
21 et 22 mai.
À Compiègne, donc en plein centre-ville, hein, finalement. Parc Saint-Jean. Près de la place et tout ça. Merci, Elisabeth, de nous avoir raconté tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose qui a
Non, tout... simplement, je voudrais simplement rajouter que cette année, on va essayer d'impliquer les commerçants du centre-ville. Bon, on le faisait quand la fête de Jeanne d'Arc se déroulait, place du Change et dans le centre-ville. Mais depuis...
J'ai un souvenir qu'elle était au cloître à un moment donné.
Tout à fait, le cloître, j'étais la place petite, du Change et toutes les rues piétonnes. Et là, les commerçants jouaient le jeu, les coiffeuses étaient en costume pour vous faire un shampoing. Au restaurant, le serveur avait son grand chapeau, son grand tablier. Et c'est vrai que depuis qu'on est au parc de Saint-Jean, un petit peu éloigné du centre-ville, donc nous avons travaillé avec monsieur le maire et cette année nous allons proposer des costumes, des mannequins, un petit peu de hallebarde et les commerçants vont mettre dans leurs vitrines des anciennes bannières de corporations.
D'accord.
Donc on essaye de reprendre un petit peu et il y a également un groupe de troubadours, donc Saltabraz, qui vont cette année animer le centre-ville le samedi, et puis quelques-uns de nos groupes
qui vont déambuler dans les rues piétonnes.
Pour faire venir les gens sur le marché médiéval, mais également pour leur faire partager de la musique dans le centre-ville. Voilà.
Eh bien, c'est complet.
Beaucoup de projets.
Oui, en effet, en effet. D'ailleurs, c'est le thème de cette année, hein, la musique médiévale.
Alors oui, tous les ans, on choisit un thème hein, pour qu'il y ait un petit peu un fil rouge. Et cette année, ça, c'est la musique médiévale. Donc nous avons énormément de musiciens. Un petit Claudio, Dame Hélène, les Lansquenets. Donc deux, trois personnes à la fois. Et qui sont des passionnés de musique médiévale. Avec une musicologue, justement, qui sera là pour gérer cet espace.
Merci beaucoup, Elisabeth.
Ravie.
J'ai préparé un tout petit atelier d'écriture, tout petit, hein, pour terminer la session. On va faire vite. Du coup, vous allez être encore devoir être plus rapide encore que d'habitude parce que notre heure est bientôt finie. Notre heure arrive.
Ça peut faire peur.
Ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, on va dire. En quelques minutes, l'équivalent de deux petites chansons, ça serait de d'imaginer, comme dans un roman de fantasy, que la jeune personne désignée pour représenter Jeanne lors de la fête de mai à Compiègne reçoive à son tour une vision de la vraie Jeanne d'Arc, si je puis m'exprimer ainsi, l'authentique. Comment cette Jeanne d'aujourd'hui, comment Jeanne d'Arc, la vraie Jeanne d'Arc, apparaîtrait-elle à cette jeune personne d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien lui dire ? Est-ce que vous pouvez, du coup, écrire une courte scène imaginaire là-dessus ? Ça vous paraît plausible ?
Je pense que oui.
Oui,
on peut le faire.
Bon, je vais vraiment pas vous laisser beaucoup de temps, mais je vais quand même préciser à nos auditeurs que j'avais donné la thématique un petit peu à l'avance, donc ça vous a permis de réfléchir, et c'est pas plus mal parce que je suis contente aussi qu'on ait gardé du temps pour raconter tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. J'aime bien terminer par l'atelier d'écriture, mais j'aime bien aussi que les invités aient le temps de raconter tout ce qu'ils veulent, et ça c'est cool. Donc voilà, on va se mettre en jambes. Je vous mets une petite musique pour commencer. Je vous propose pour commencer Love is Long, qui est chanté par la personnage qui s'appelle Demelza dans Paul Dark. Et ça sera suivi par donc la série Paul Dark. Et ça sera suivi par le thème de la série Outlander. Ouais, je suis partie outre-Manche pour ces musiques. Alors, on va faire l'inverse plutôt, on va commencer par Outlander.
Do not ask me for a smile. Life is short, but love is long. Let me not your heart beguile. Pray content you with a song. Do not ask me for a kiss. Life is short, but love is long. You may never know that bliss, so I offer you this song. Do not ask me for my heart. Life is short, but love is long. Knowing we are soon to part, consolation be my song.
Et voilà, nous sommes de retour dans la voix de la plume. Oh non, je vais y arriver avec cette musique aujourd'hui. Où nos invités, Jennifer Tellier, auteure de Fantasy, et Elisabeth Van den Driesch, des compagnons de Jeanne, ont participé à l'atelier d'écriture. Donc l'idée, c'était de pouvoir introduire une vision que notre Jeanne d'aujourd'hui, choisie pour les fêtes du mois de mai à Compiègne, aurait eue de l'authentique Jeanne d'Arc. Voilà, une version historique fantasy d'une apparition. Qui veut commencer à nous lire sa petite production ?
Bah, moi, comme elle n'a pas eu le temps de parler, Jeanne, parce que 8 minutes, ce n'est pas possible. Hein. Je vais peut-être commencer comme ça. Toi, tu feras le dialogue.
Moi,
justement,
je fais parler Jeanne.
Voilà.
Ah bah, parfait. Vous complétez façon, bien. C'est un beau travail.
D'ici. Voilà. Alors, tous ces visages tournés vers elle, ces sourires chaleureux et ces rires enfantins enveloppèrent la jeune fille vêtue telle un soldat du XVe siècle. Elle, qui avait tant voulu incarner Jeanne sur cette magnifique place de Compiègne, se trouvait maintenant intimidée et tremblante devant une foule pourtant bienveillante. Elle fut soulagée quand l'organisatrice de cet événement prit la parole pour annoncer la suite des réjouissances. Les épaules de la jeune fille se détendirent sensiblement quand un rayon de soleil l'éblouit brusquement. Rien d'étonnant à ça en ce mois de mai, si ce n'est que son intensité n'avait rien d'habituel. Plissant les yeux, la jeune soldate sonda les environs en quête de la lueur qu'elle seule paraissait avoir remarquée. Son cœur bondit dans sa poitrine quand elle perçut d'où venait le halo opalescent qui n'était plus si aveuglant. Son esprit avait beau lui dire que c'était impossible. La jeune fille savait qui se trouvait face à elle. Sa frêle silhouette lovée, cette tunique... non, c'est pas ça. Cette lueur maintenant pâle était celle d'une enfant. Son visage tendre, constellé de taches de rousseur, et sa tunique de paysanne d'une merveilleuse simplicité, ne ressemblant en rien à celle de son alter ego. Mais son regard ne trompait pas, c'était bien elle. Son regard était empreint d'une sagesse et d'une gravité immense.
Eh bien.
Et elle n'a pas le temps de parler.
fin de l'atelier, mais tu t'es bien mis en jambes, ça va. Tu nous as vendu une bonne introduction. Elisabeth, tu prends la suite.
Voilà, alors moi je me suis mis un petit peu dans la peau de la petite jeune fille qui a été choisie pour cette année. Je marchais sur les pas de Jeanne dans les rues de Compiègne. En l'église Saint-Jacques, où Jeanne a assisté à sa dernière messe en tant que femme libre, j'admirais la statue qui la représentait. D'un seul coup, un courant d'air. Stupéfaite, je me suis figée. Te voilà à ma place pour quelques jours et tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses, me dit une voix douce. Stupéfaite et inquiète, cette voix m'intriguait. Alors je me suis mise à genoux et j'ai attendu, attendu. Progressivement, une lumière est venue caresser le visage de la statue de Jeanne et une voix me dit « En 1430, la France était menacée et j'ai essayé de bouter l'anglais de notre pays. Au mois de mai, tu vas revêtir l'armure et tu vas rencontrer mes bons amis de Compiègne. Aujourd'hui, le monde est menacé. Alors, tous ensemble, battez-vous pour la paix dans le monde. » La lumière disparut et je me suis retrouvée seule face à mon destin.
Waouh, j'en ai des frissons. Un thème tout à fait d'actualité d'ailleurs. Merci Elisabeth, merci Jennifer. Je suis ravie de vous avoir eu au micro de La Voix de la Plume. Notre émission se termine là pour aujourd'hui. On rappelle, Jennifer, où on peut te trouver. Donc, Jennifer Tellier, auteure, sur Facebook et sur Insta, pour avoir toutes les dates de tes salons à venir. On a dit les Imaginales, le Festival de l'Imaginaire à Bouillon.
Troll et Légendes.
Troll et Légendes.
Voilà, et plein d'autres choses.
Et les Compagnons de Jeanne, à part le 21 et le 22 mai, on les retrouve où si on
Alors, veut. Nous avons un site internet où c'est Fête Jeanne d'Arc Compiègne avec des tirets, .fr. Et là, vous avez tout le programme. Vous avez même les Jeannes d'Arc des années précédentes. Vous avez le travail des bénévoles. Enfin, il est très explicite. Et grâce au QR code cette année qui sera sur notre affiche, vous pourrez avoir le programme détaillé un mois avant la fête.
Ah super, une innovation en plus.
Absolument,
pour les fêtes Jeanne d'Arc.
Oui,
ah j'adore, j'adore. Eh bien merci beaucoup à vous. J'invite nos auditeurs, s'ils ont envie de faire des commentaires, à liker la page Facebook de Radio Graphite et éventuellement aller voir aussi sur mon Insta. Vous retrouverez le lien dans ma bio avec l'article et le podcast de cette émission dans les semaines à venir, la semaine prochaine, je pense. Merci beaucoup à tous. On se quitte avec Kingdom Dance, un extrait de la bande originale de Réponse. Désolée. J'ai pas pu m'empêcher.
Au revoir, merci pour l'invitation.
Merci, Aurore.